Des origines anglo-saxonnes de la progressivité fiscale moderne. On constate un phénomène comparable au Royaume-Uni. Souvenons-nous de la crise occasionnée par le vote du People's Budget en 1909-1911. Les Lords avaient commencé par refuser le relèvement des impôts progressifs sur les plus hauts revenus et successions, dont les recettes étaient pourtant destinées à financer des mesures sociales en faveur des classes ouvrières, ce qui précipita leur chute et la fin de leur rôle politique. Les taux applicables aux revenus et successions les plus élevés furent de nouveau relevés à l'issue de la Première Guerre mondiale, à tel point qu'il devint matériellement impossible pour les propriétaires britanniques de maintenir leur train de vie d'avant-guerre. Ce difficile processus d'ajustement est évoqué par exemple dans la série « Downton Abbey », où l'on voit poindre également l'importance de la question irlandaise dans la remise en cause du régime propriétariste. Mais pour faire face à des taux d'imposition atteignant très rapidement 50-60% dans les années 1920 et 1930 pour les plus hauts revenus britanniques, qui en pratique étaient essentiellement des revenus du capital et notamment des loyers, intérêts et dividendes, et 40-50% au moment de la transmission successorale, il n'était pas suffisant de réduire légèrement le nombre de domestiques. La seule solution était de vendre une partie des biens. Et c'est ce qui se produisit à vitesse accélérée au Royaume-Uni dans l'entre-deux-guerres. Ce processus concerna notamment les grands domaines terriens britanniques, qui historiquement étaient exceptionnellement concentrés. L'ampleur et la rapidité des transferts de terres prirent des proportions inédites au cours des années 1920 et 1930, et inconnues dans le Royaume depuis la conquête normande de 1066 et la dissolution des monastères de 1530. Ce phénomène concerna aussi et surtout les énormes portefeuilles financiers domestiques et étrangers accumulés par les propriétaires britanniques au cours du XIXe et au début du XXe siècle, qui furent démembrés à vive allure, comme en témoigne l'effondrement spectaculaire de la part du centile supérieur dans le total des propriétés britanniques. Cette évolution prit une ampleur nouvelle après la Seconde Guerre mondiale, quand les taux appliqués aux plus hauts revenus dépassèrent 90%. Et que les taux concernant les successions les plus importantes atteignirent 80% pendant plusieurs décennies, aussi bien d'ailleurs au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Il est bien évident que la mise en place de tels taux d'imposition a pour objectif d'éradiquer purement et simplement ce type de niveau de patrimoine, ou tout du moins de mettre des conditions drastiques à leur perpétuation, comme des rendements exceptionnellement élevés sur les propriétés héritées. De façon générale, il faut souligner le rôle central joué par les États-Unis et le Royaume-Uni dans le développement de l'impôt progressif à grande échelle, aussi bien pour ce qui concerne les revenus que les successions. Des travaux récents ont montré que ce ne sont pas seulement les taux supérieurs théoriques qui ont été relevés à des niveaux inédits dans ces deux pays au cours de la période 1932-1980, ce sont également les taux effectifs d'imposition réellement acquittés par les groupes les plus fortunés qui atteignirent des sommets. Des années 1930 aux années 1960 aux États-Unis, le total des impôts payés, tous prélèvements confondus, directs et indirects, par les 0,1% et les 0,01% des revenus les plus élevés, oscillait autour de 50-80% de leurs revenus avant impôts, alors que la moyenne de la population se situait entre 15 et 30% et les 50% les plus pauvres entre 10 et 20%. Voir graphique 10.13. Tout semble en outre indiquer que les taux marginaux de l'ordre de 70-80% ont aussi et surtout eu un effet sur la répartition des revenus avant impôts, ce qui par définition ne peut apparaître sur ces taux effectifs. De fait, de tels taux marginaux ont rendu presque impossible le maintien de revenus du capital de ce niveau, sauf à réduire massivement le train de vie ou à vendre graduellement une partie des actifs, et ont également eu un impact dissuasif majeur sur la fixation de rémunérations stratosphériques pour les dirigeants d'entreprise. S'agissant de l'impôt successoral, il est frappant de constater que l'Allemagne et la France appliquèrent des taux d'à peine 20-30% aux plus grandes fortunes au cours de la période 1950-1980, au moment où les deux puissances anglo-saxonnes appliquaient des taux de 70-80%. Cela peut s'expliquer, pour partie, par l'ampleur des destructions et de l'inflation en Allemagne et en France, qui eurent par conséquent moins besoin de l'arme fiscale que le Royaume-Uni et les États-Unis pour transformer le régime inégalitaire issu du passé. Il est également frappant de constater que le seul moment où l'Allemagne appliqua aux plus hauts revenus un taux de 90% correspond à la période 1946-1948, quand la politique fiscale allemande était fixée par l'Allied Control Council, dominée en pratique par les États-Unis. Dès que l'Allemagne retrouva sa souveraineté fiscale, en 1949, les gouvernements successifs choisirent de réduire ce taux et de le stabiliser très vite, autour de 50-55%. Dans l'esprit états-unien de 1946-1948, ce taux de 90% n'était en aucune façon une punition imposée aux élites allemandes, puisque le même taux était alors appliqué aux élites anglo-saxonnes. Selon l'idéologie dominante à l'époque aux États-Unis et au Royaume-Uni, ces impôts lourdement progressifs faisaient partie intégrante de l'ensemble institutionnel sur lequel devait s'appuyer le nouveau monde de l'après-guerre. Les institutions électorales devaient être complétées par des institutions fiscales solides, permettant d'éviter que la démocratie soit de nouveau capturée par les intérêts financiers et oligarchiques. Ces représentations peuvent sembler lointaines et surprenantes, surtout s'agissant de pays anglo-saxons qui se sont lancés, à partir des années 1980, dans une forme de démantèlement de l'impôt progressif, mais elles font partie de notre héritage commun. Ces transformations illustrent de nouveau l'importance des processus politico-idéologiques dans la dynamique des régimes inégalitaires, la rapidité et la multiplicité des transitions et bifurcations possibles, et le fait qu'il n'existe pas d'essence culturelle ou civilisationnelle égalitaire ou inégalitaire en tant que telle, mais simplement des trajectoires sociopolitiques conflictuelles où les différentes sociétés et les multiples groupes sociaux et sensibilités en leur sein tentent de construire des visions cohérentes de la justice, en fonction notamment des expériences et événements auxquels ils sont confrontés et des rapports de force en présence. Dans le cas du Royaume-Uni, nous avons vu que l'irruption de l'impôt progressif et de la redistribution des revenus et des propriétés avait été préparée par des luttes sociales et politiques qui avaient débuté au début du XIXe siècle avec le processus d'extension du suffrage universel et qui prirent un tournant décisif avec les débats autour de la question irlandaise et des absentee landlords à la fin du XIXe siècle, le développement du mouvement syndical, puis avec le People's Budget et la chute finale de la Chambre des Lords en 1909-1911. Pour ce qui est des États-Unis, nous avons déjà noté comment le Parti démocrate, violemment ségrégationniste au Sud, avait entrepris dès les années 1870-1880 de fédérer les aspirations des classes blanches modestes, des petits colons et des nouveaux immigrés italiens et irlandais, tout en stigmatisant l'égoïsme des élites financières et industrielles du Nord-Est et en défendant le besoin d'une plus juste répartition des richesses. Au cours des années 1890, le parti populiste, de son vrai nom le People's Party, mais qui revendiquait aussi l'appellation de Populist Party, présenta des candidats aux élections sur une plateforme de partage des terres, de crédit aux petits fermiers et d'opposition à la mainmise des actionnaires, des propriétaires et des grandes corporations sur le gouvernement du pays. Les populistes ne se hissèrent pas au pouvoir, mais ils jouèrent un rôle central dans la campagne qui se développa alors pour réformer le système fiscal du pays et qui aboutit à l'adoption en 1913 du 16e amendement et au vote la même année d'un impôt fédéral sur le revenu, puis en 1916 d'un impôt fédéral sur les successions. De tels impôts fédéraux n'étaient en effet pas autorisés jusqu'ici par la Constitution, ainsi que la Cour suprême l'avait rappelé en censurant, en 1894, le projet adopté par la majorité démocrate. Du fait de la complexité du processus de révision constitutionnelle aux États-Unis, un amendement doit d'abord être approuvé à la majorité des deux tiers par chacune des deux chambres, avant d'être ratifié par les trois quarts des États, cela exigea une intense mobilisation populaire et témoigne de la force de la demande de justice fiscale et économique qui s'exprimait alors dans le pays. Cela correspond à l'époque dite du « Gilded Age », où s'accumulent aux États-Unis des fortunes industrielles et financières inconnues jusqu'alors, où l'on s'inquiète du pouvoir amassé par les Rockefeller, Carnegie et autres J.P. Morgan, et où une demande de plus grande égalité s'exprime de plus en plus fortement. L'émergence de cette nouvelle fiscalité fédérale, à base d'impôts directs et progressifs sur les revenus et les successions, dans un pays où l'État fédéral avait jusqu'ici joué un rôle limité et s'était financé principalement par les droits de douane, doit également beaucoup au rôle de mobilisation et d'intermédiation joué par les partis politiques et particulièrement par le Parti démocrate. Il est d'ailleurs intéressant de constater que les États-Unis furent à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle l'un des principaux pôles de la campagne internationale qui se développa alors en faveur de l'impôt sur le revenu. En particulier, les nombreux ouvrages et traités publiés entre 1890 et 1910 par l'économiste états-unien Edwin Seligman pour vanter les mérites de l'impôt progressif sur le revenu global furent traduits dans toutes les langues et suscitèrent des débats passionnés. Dans une étude consacrée en 1915 à la répartition des richesses aux États-Unis, le premier travail d'ensemble sur la question, le statisticien Wilford King s'inquiète du fait que le pays devienne de plus en plus inégalitaire et s'éloigne progressivement de son idéal pionnier des origines. En 1919, le président de l'American Economic Association, Irving Fisher, va plus loin encore. Il choisit de consacrer sa Presidential Address à la question des inégalités et il explique sans détour à ses collègues que la concentration croissante de la fortune est en passe de devenir le principal problème économique de l'Amérique, qui risque, si l'on y prend garde, de devenir aussi inégalitaire que la vieille Europe, alors perçue comme oligarchique et contraire à l'esprit états-unien. Fisher est affolé par les estimations réalisées par King. Le fait que 2% de la population possède plus de 50% de la fortune et que les deux tiers de la population ne possèdent presque rien, lui apparaît comme une répartition non démocratique de la richesse, an undemocratic distribution of wealth, menaçant les fondements mêmes de la société états-unienne. Plutôt que de restreindre arbitrairement la part des profits ou le rendement du capital, solution que Fisher évoque pour mieux les rejeter, la méthode la plus adaptée lui semble être d'imposer lourdement les héritages les plus importants. Il mentionne notamment l'idée d'une taxation égale à un tiers de la valeur transmise à la première génération, à deux tiers à la seconde génération, voire à la totalité si l'héritage perdure depuis trois générations. Même si cette solution spécifique ne fut pas retenue, les États-Unis appliquèrent dès 1918-1920, sous le mandat du démocrate Wilson, des taux de plus de 70% au sommet de la hiérarchie des revenus, avant tous les autres pays. Quand Roosevelt fut élu en 1932, cela faisait déjà longtemps que le terrain intellectuel avait été préparé pour la mise en place aux États-Unis d'une progressivité fiscale de grande ampleur. La montée en puissance de l'État fiscal et social. Le régime inégalitaire en vigueur au XIXe siècle et jusqu'en 1914 reposait sur le refus de l'impôt progressif, ainsi que sur des recettes fiscales totales relativement limitées. Les États européens des XVIIIe-XIXe siècles étaient fiscalement riches par comparaison aux structures étatiques des siècles précédents ou aux États ottomans ou chinois de leur époque. Mais ils étaient fiscalement pauvres par comparaison au niveau observé au cours du XXe siècle, période qui se caractérise par un bond en avant décisif de l'État fiscal. Au-delà de la question de l'impôt progressif, cette montée en puissance de l'État fiscal et social a joué un rôle central dans la transformation des sociétés de propriétaires en sociétés social-démocrates. Les principaux ordres de grandeur sont les suivants. Les recettes fiscales totales, en incluant l'ensemble des taxes, impôts, cotisations et autres prélèvements obligatoires de toute nature, toute collectivité publique confondue, État central, collectivité territoriale, administration de sécurité sociale, etc., représentaient moins de 10% du revenu national en Europe et aux États-Unis à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, avant de s'élever à environ 20% dans les années 1920-1930, puis autour de 30% dans les années 1950-1960, avant de se stabiliser depuis les années 1970-1980 à des niveaux sensiblement différents suivant les pays, autour de 30% du revenu national aux États-Unis, 40% au Royaume-Uni, 45% en Allemagne et 50% en France ou en Suède. Voir graphique 10.14. On notera toutefois qu'aucun pays riche n'est parvenu à se développer avec des recettes fiscales limitées à 10 ou 20% du revenu national, et que personne ne propose aujourd'hui dans ces pays de revenir au niveau de recettes fiscales du 19e siècle. Les débats portent le plus souvent sur une possible stabilisation de ces niveaux de prélèvements obligatoires ou éventuellement sur une légère baisse, ou parfois sur des hausses plus ou moins substantielles, mais jamais sur une division par 4 ou 5 du dimensionnement de l'État fiscal. De multiples travaux ont montré que la montée en puissance de l'État fiscal n'avait non seulement pas empêché la croissance économique, mais qu'elle constituait au contraire un élément central du processus de modernisation et de la stratégie de développement menée en Europe et aux États-Unis au cours du XXe siècle. Les nouvelles recettes fiscales ont en effet permis de financer des dépenses indispensables pour le développement, en particulier un investissement massif et relativement égalitaire dans l'éducation et la santé, ou tout du moins beaucoup plus massif et égalitaire que tout ce qui avait été fait auparavant, ainsi que des dépenses sociales indispensables pour faire face au vieillissement, comme les pensions de retraite, et pour stabiliser l'économie et la société en cas de récession, comme l'assurance chômage. Si l'on fait la moyenne des données disponibles pour les différents pays européens, on constate que la hausse des recettes fiscales entre les années 1900-1910 et 2000-2010 s'explique presque entièrement par la hausse des dépenses sociales liées à l'éducation, à la santé, aux retraites et aux autres transferts et revenus de remplacement. Voir graphique 10.15 qui fait la moyenne des données Allemagne, France, Royaume-Uni, Suède. Ainsi, en 2015, les recettes fiscales représentaient 47% du revenu national en moyenne en Europe occidentale et étaient dépensées comme suit: 10% du revenu national pour les dépenses régaliennes, armée, police, justice, administration générale, etc., 6% pour l'éducation, 11% pour les retraites, 9% pour la santé, 5% pour les transferts sociaux, hors retraite, 6% pour les autres dépenses sociales, logements, etc. Avant 1914, les dépenses régaliennes absorbaient la quasi-totalité des recettes fiscales. On notera également l'importance cruciale de la période 1910-1950 dans la transformation du rôle de l'État. Au début des années 1910, l'État était le garant du maintien de l'ordre et du respect du droit de propriété, aussi bien sur le terrain domestique que sur la scène interétatique et coloniale, comme il l'avait été tout au long du XIXe siècle. Les dépenses régaliennes, armée, police, justice, administration générale, infrastructure de base, absorbaient la quasi-totalité des recettes fiscales, soit environ 8% du revenu national sur un total d'à peine 10%, et l'ensemble des autres dépenses devait se contenter de moins de 2% du revenu national, dont moins de 1% pour l'éducation. Au début des années 1950, les éléments essentiels de l'État social étaient déjà en place en Europe, avec des recettes totales dépassant les 30% du revenu national et un ensemble diversifié de dépenses éducatives et sociales absorbant les 2/3 du total, en lieu et place des dépenses régaliennes autrefois dominantes. Cette évolution spectaculaire n'a été possible qu'à l'issue d'une transformation radicale des rapports de force politico-idéologiques au cours de la période 1910-1950. Tout cela dans un contexte où les guerres, les crises et les révolutions démontraient au grand jour les limites du marché autorégulé et le besoin d'un encastrement social de l'économie. On remarquera aussi que la hausse tendancielle des dépenses de retraite et de santé, dans un contexte de vieillissement de la population et du gel du niveau global des recettes fiscales, a entraîné mécaniquement, au cours des années 1990-2020, une certaine fuite en avant vers la dette, ainsi qu'une stagnation, voire une légère baisse, des investissements éducatifs publics, Ce qui est paradoxal, s'agissant d'une période où l'on parle beaucoup d'économie de la connaissance et de l'innovation, et où une part de plus en plus importante d'une classe d'âge accède à l'enseignement supérieur, ce qui est une excellente chose en soi, mais peut entraîner un énorme gâchis humain et de grandes frustrations sociales si l'ensemble n'est pas correctement financé. Nous reviendrons dans les prochains chapitres sur ce défi fondamental et les insuffisances des réponses apportées par la social-démocratie de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. En théorie, le fait que les prélèvements obligatoires avoisinent 50% du revenu national signifie que la puissance publique, dans ses différentes incarnations, pourrait faire travailler la moitié de la population active, rémunérée au même revenu moyen que le secteur privé, utilisant en moyenne les mêmes équipements, locaux, etc., et produisant la moitié du produit intérieur du pays. En pratique, l'emploi public travaillant dans les différentes administrations nationales et locales, écoles, lycées, universités, hôpitaux, etc., représente dans les années 2000-2020 autour de 15-20% de l'emploi total dans les pays ouest européens, contre 80-85% pour l'emploi privé. Cela est dû au fait que la plus grande partie des impôts et cotisations sert non pas à rémunérer des emplois publics, mais à financer des transferts, retraites, allocations, etc., et l'achat de biens et services au secteur privé, bâtiments et travaux publics, équipements, prestations extérieures, etc. Outre la part des impôts dans le revenu national, 40-50% en Europe occidentale, et la part de l'emploi public dans l'emploi total, 15-20%, il existe une troisième façon d'évaluer le poids de l'État, consistant à mesurer sa part dans le capital national. Suivant ce dernier critère, nous verrons que la part de l'État a beaucoup baissé au cours des dernières décennies et est même devenue négative dans de nombreux pays.